Gaz de schiste et fracturation hydraulique étaient au menu sur le 93.9 de février à avril. Et voilà que l'on se laisserait bien bercer par les échos lointains d'un 20h où notre président annoncerait la fin du gaz de schiste en France. Mais d'un côté, le Luxembourg voudrait bien fracturer hydrauliquement, le Québec aussi, mais pour le pétrole de schiste, l'Espagne explore, l'exploration se pratique en région parisienne, ExxonMobil quitte la Pologne, pas rentable pour une exploration à des fins commerciales, et non, ce n'est pas un écho tout droit sorti d'un imaginaire JT, c'est bien le chef des armées qui déclare.
Soyons clairs, dans l'état actuel de nos connaissances, personne, je dis bien personne, ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et pour l'environnement. C'est pourquoi j'ai demandé à Delphine Batteau, ministre de l'écologie, de prononcer sans attendre davantage le rejet des 7 demandes de permis déposées auprès de l'État.
Il ne s'est pas passé longtemps avant que les collectifs anti-gaz de schiste ne se manifestent, avant et après la journée de mobilisation mondiale du 22 septembre. Le mardi suivant, Alain Dordé, membre du collectif d'Île-de-France, indiquait « Le président de la République a annoncé le rejet de 7 demandes de permis lors de la conférence environnementale, mais il reste une trentaine de demandes et une soixantaine de permis déjà accordés de recherche d'hydrocarbures ». Fin de citation. Et plus près de nous, c'est le collectif Littoral 34 contre le gaz de schiste qui communique à tout va, surtout via son compte Facebook « Nobody's Perfect ». Claude-Lise Cabrol, membre du collectif, est désigné parmi celui pour répondre à nos questions, à commencer par un commentaire sur la déclaration présidentielle lors de la conférence environnementale.
One test of your soil, they don't need to negotiate. Your land only goes 6 feet down, that's how we regulate. They can just go under you. So don't deliberate. Just lock the gate.
Oui, la réalité, elle est plus nuancée dans la mesure où il y a une annonce qui a été faite effectivement qui concerne les demandes de permis qui ne sont pas encore attribuées. Donc, dans ce stock-là de demandes en instruction, en effet, qui se monte à peu près à 90 demandes, il y en a 7 seulement qui ont été annulées. Donc, les autres demandes continuent à suivre leur chemin administratif. Mais surtout, il continue à y avoir 80 permis déjà accordés, tout à fait valides, et pour lesquels les travaux de forage ou en tout cas d'acquisition sismique sont en train de démarrer. Donc on est quand même loin de quelque chose qui serait l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Oui, alors est-ce que c'est étranger à la pression qui a eu lieu pendant l'été de la part des compagnies pétrolières ?
En fait, le jeu du président Hollande, c'est d'arriver à concilier la chèvre et le chou. On va dire que la chèvre, ce sont la perspective des municipales qui s'annonce quand même un petit peu compliquée de ce point de vue-là, puisque les élus locaux qui sont concernés par les permis accordés ou en perspective de gaz de schiste sont quand même tous très mobilisés contre cette perspective-là et que du coup, ça met effectivement le gouvernement un peu en délicatesse vis-à-vis des élus locaux. Ensuite, le chou, et on va dire effectivement, oui, c'est le lobby pétrolier qui s'est déchaîné pendant l'été et qui manipule l'opinion à grands coups de chantage à l'emploi et de chantage à l'indépendance énergétique qui sont des faux débats dans la mesure où on a déjà démontré que les emplois ils s'en créent nullement et que l'indépendance énergétique on est bien loin d'y apporter une réponse avec les gaz de schiste.
Au niveau du territoire qui nous concerne ici en Languedoc-Roussillon, quelles sont les zones à risque actuellement ?
Alors les zones à risque, les zones très très chaudes on va dire, c'est actuellement c'est le Gard et l'Ardèche puisque c'est un permis, il y a deux permis accordés donc qui sont le permis du bassin d'Alès et des plaines d'Alès qui sont des permis qui touchent les départements du Gard et de l'Ardèche pour lesquels il y a eu dans ces derniers jours, alors hier pour l'Ardèche et la semaine dernière pour le Gard, des élus locaux carrément convoqués par les préfets respectifs pour se voir rappeler à l'ordre puisqu'ils s'apprêtaient, eux, à s'opposer à la circulation des camions sismiques qui manifestent en fait le démarrage des travaux d'exploration sur ces permis-là. Ce qui d'ailleurs, au passage, démontre bien l'hypocrisie du propos présidentiel qui consisterait à dire qu'il n'y aura pas de gaz de schiste en France durant son mandat. En fait, les élus locaux sont nez à nez avec les camions sismiques. Alors du coup, donc c'est vraiment là où les choses se précisent. Il y a eu deux manifestations de soutien aux élus qui ont été assez impressionnantes déjà donc sur Nîmes et puis puis ensuite sur Saint-Privat. Donc vraiment une grosse mobilisation citoyenne derrière les élus. Et donc certainement là de gros points chauds en perspective dans les jours qui viennent. Ensuite, plus proche encore de l'Ouest Hérault, on a un autre permis qui s'appelle le permis Plaine du Languedoc et pour lequel on commence à sentir que les choses se rapprochent puisque les maires qui ont pris des arrêtés interdisant la circulation des camions sismiques sont quand même en train de se faire attaquer par le fourreur, le titulaire du permis, et aussi par le sous-préfet de l'Odève qui a par exemple récemment attaqué un arrêté municipal à Paulhan. Donc on sent bien qu'on est on n'est pas loin non plus, nous, d'être concernés vraiment bientôt par le démarrage des campagnes sismiques, qui sont les premières étapes des forages d'exploration.
Voilà, alors une fois encore, on a le sentiment que c'est la mobilisation citoyenne et puis la communication aussi des militants à travers les médias qui va peser dans la balance, d'autant qu'il y avait eu le 22 septembre une journée d'action internationale contre les gaz et pétrole de schiste qui a plutôt bien fonctionné.
Cette journée, elle a eu le mérite au moins de faire connaître une chose, c'est qu'il y a en Île-de-France aujourd'hui des forages d'exploration qui ont lieu. C'est-à-dire que c'est la nappe phréatique de Paris qui est directement menacée aujourd'hui par les forages de pétrole de schiste en Île-de-France. Donc il y a 7 points pour lesquels on sait que les forages sont déjà à de très grandes profondeurs, à peu près 3000 mètres. Donc ça a au moins permis de mettre en lumière ces choses-là qui sont sinon passées sous silence par les médias. Et ensuite de faire voir qu'en effet, aux quatre coins de la France, les gens se sont déplacés pour venir vraiment montrer par la masse l'opposition sur le terrain qui est vraiment grandissante. Et je tiens à souligner que non seulement, effectivement, c'est les citoyens qui se sont mobilisés, c'est eux qui restent les plus vigilants, mais il y a aussi, et ça vraiment c'est quelque chose qui est fort, il y a de plus en plus une écoute et aussi une montée en puissance extrêmement importante aussi des élus locaux qui ont bien compris que la ressource en eau c'est vital pour les territoires dans lesquels on vit aujourd'hui, quoi.
La ressource en eau qui, effectivement, dans la région Languedoc-Roussillon...
est extrêmement vulnérable, voilà. Et très stratégique pour la suite. Je veux dire, si on ne peut plus boire de l'eau, on déplace les populations. C'est juste inimaginable pour nous. On essaye d'emboîter le pas à nos voisins, effectivement, Gardois et Ardéchois, et de mettre en place sur notre territoire, donc sur le permis Plaine du Languedoc, un système de vigilance de façon à ne pas se laisser déborder par l'arrivée des camions. Effectivement, d'être vigilant sur le terrain, d'être vigilant sur les affichages en préfecture et de préparer, si possible, l'opposition au démarrage de ces travaux-là, puisqu'on sent bien que c'est ce travail préparatoire qui a permis, dans le Gard et dans l'Ardèche, de manifester d'ores et déjà l'opposition qui va se faire jour sur le terrain quand les travaux vont démarrer. C'est un vrai bras de fer qui va être démarré là dans le Gard et dans l'Ardèche, et nous, il faut qu'on soit mobilisés derrière, parce que non seulement pour nous, mais aussi pour les soutenir eux, parce que je crois que ça va faire école.
Des choses qui peuvent être encourageantes, c'est certains exemples à l'international, je pense au Québec ou à l'Autriche, où des militants ont gagné des moratoires sans date limite de péremption. Mais bon, c'est vrai qu'on a pu lire aussi dans Science et Vie, dans le courant de l'été, un article sur qui faisait principalement allusion à la quantité d'hydrocarbures qu'il y a sous le bassin parisien. C'est pas dit que ça se passe en France comme ça a pu se passer ailleurs, dans le bon sens.
Oui, sur ces estimations-là, elles sont toujours très drôles parce que elles sont, en fait, on peut rajouter ou enlever 2 zéros chaque fois. C'est toujours des quantités énormes. Moi, je voudrais juste reprendre un exemple. On avait, il y a un an de ça, présenté la Pologne, par exemple, comme le nouvel Eldorado des gaz de schiste, le nouveau Qatar, la nouvelle Norvège. Enfin, c'était énorme. Ils étaient sur des gisements de gaz impressionnants. Et puis, quand ils ont vraiment démarré les explorations, en fait, on a divisé les quantités par des centaines de mètres cubes. On est revenu à des choses qui sont tellement inintéressantes que les pétroliers américains se retirent de l'exploration en Pologne. Donc ça a été souvent, maintenant ça commence à être quand même très bien démontré que ces estimations-là, sur lesquelles on se fonde pour dire vous ne pouvez pas vous opposer à cette richesse-là, en fait ces estimations elles sont entièrement fausses. C'est du pif, quoi. C'est du pif complet, et la plupart du temps c'est même un argument marketing pour pour faire passer ce genre de choses-là. Ça, c'est la première chose. Donc, ça a été toujours démontré, même aux États-Unis, hein, entre les estimations et la réalité, on est toujours sur des choses qui sont sans commune mesure. Et puis, l'autre aspect quand même, c'est que on dit d'accord, même dans les prévisions les plus optimistes, si on libérait partout cette industrie, l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'en 2030, le gaz de schiste représenterait au mieux donc 5% de la consommation énergétique mondiale. Alors on se dit, mais même si c'était vrai, on sait déjà que c'est faux, mais même si c'était vrai, ça envoie absolument pas la chandelle. Et dans tous les cas, au nom de quoi est-ce qu'on devrait sacrifier notre droit à vivre dans des conditions dignes? Parce que c'est quand même ça qui est en question là. C'est la ligne rouge qu'on veut pas franchir, en train de se dire, c'est pas pour de l'emploi ou un pseudo-emploi qu'on va sacrifier notre droit à vivre avec une eau potable. Mmh. C'est quand même ça, on parle vraiment pas des mêmes réalités.
Voilà,
mais je voudrais juste dire, vous savez qu'il suffirait qu'on soit un peu curieux, nos voisins allemands par exemple, ils ont eu aussi la proposition des gaz de schiste et puis ils l'ont quand même plus ou moins relégué au second plan, puisqu'ils sont en train quand même eux de travailler plutôt sur la transformation du soleil en hydrogène, en train de réaliser vraiment presque un objectif d'autonomie énergétique réelle qui leur coûte rien et qui pollue absolument pas. Donc il y a vraiment que nous pour être vraiment dans ce débat qui est entièrement fermé par les industriels sur la notion de pétrole ou hydrocarbures de schiste. Le débat, il est bien plus large à condition qu'on soit là pour l'élargir. Et ça c'est tout le mérite de l'expertise citoyenne qui est en train de se développer sur ces questions.
Alors les entreprises, certes, mais aussi une partie de l'administration.
Oui, l'administration, c'est vrai qu'elle n'a pas brillé par sa compétence sur ces questions, puisque c'est même un sujet de blague régulier de lire les documents qui sont produits par l'administration sur l'examen des permis. C'est bourré d'incohérences, d'erreurs, c'est lamentable. Mais plus largement, je pense que sur ces questions d'hydrocarbures, ça a été démontré dans un livre qui s'appelle par exemple La vérité sur les gaz de schiste, qui montre bien à quel point le corps des mines qui a la main mise réellement sur tout ce qui est ressources énergétiques en France a verrouillé ce débat et mis en place ces permis de gaz de schiste sans aucun débat, sans aucune concertation, et que du coup c'est un véritable dogme qu'on est en train, nous là citoyens, de démonter.
Au niveau des actions en cours dans la région, j'imagine que évidemment les gens peuvent trouver des tas de renseignements sur non-gaz-de-schiste.fr qui recense à la fois les initiatives nationales et puis aussi locales. Quelles échéances là dans les semaines à venir?
Une petite chose qui est importante, c'est que je faisais mention tout à l'heure d'élus, par exemple le maire de Pologne qui est attaqué par le foreur et par l'État. On a aussi, on est en train là, nous par exemple, le collectif Littoral, mais je pense tous les collectifs héraultais, de mettre en place une action de soutien à ces maires qui prennent vraiment leurs responsabilités et qui se retrouvent intimidés en fait par des industriels qui n'ont absolument pas les mêmes intérêts que nous. Donc il faut être, je pense, en tant que citoyen, pouvoir se joindre à cette manifestation de solidarité envers ses élus et demander à son maire éventuellement d'écrire au préfet en lui demandant plus d'éléments sur le permis plaine du Languedoc et la preuve en tout cas qu'il ne s'agit pas de gaz de schiste puisque c'est l'argument qui est donné. Ensuite, si vous voulez plus de renseignements, au-delà du site que vous venez de mentionner, moi je vous invite aussi, pour ceux qui s'intéressent à Facebook, à s'intégrer au groupe, à la page Stop Gaz de Schiste Littoral 34, sur lequel on essaye de donner un maximum d'informations, d'actualité sur ces actions-là locales qui sont menées. Et puis ensuite, vous serez de son redirigé vers des collectifs près de chez vous, parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est de aussi pouvoir s'investir un tout petit peu plus sur le terrain, parce que la vraie info, la vraie expertise, elle est chez nous, quoi. Il faut venir la chercher et on sera heureux de vous la transmettre.
À ce titre, on peut aussi rappeler, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le film Gasland qui dresse un tableau qui fait froid dans le dos sur l'expérience américaine où il y a plus de 700 sites actuellement en production avec une expérience hélas assez longue en la matière, donc avec tous les dégâts qu'on peut y voir. Un film d'ailleurs qui a été, alors c'est peut-être un petit peu de la désinformation, mais qui a été pas mal critiqué plusieurs mois après sa sortie sur le, on va dire, la façon dont il a été filmé, etc. Là aussi, il y a une guerre de la communication autour de ce problème des gaz de schiste ou des hydrocarbures non conventionnels, comme on les appelle aussi.
Et oui, on n'engage pas une guerre contre un lobby mondial sans y laisser quelques plumes. Alors c'est vrai que le documentaire de Josh Fox, il a eu le mérite d'être un véritable brûlot, sans méchant jeu de mots, qui mettait en lumière les ravages sanitaires et environnementaux de cette exploitation, qui ont quand même été longtemps tenus silencieux parce que les propriétaires des terrains sur lesquels ont lieu les exploitations avaient été achetés en fait par les gaziers. En gros, l'idée c'était de dire vous recevez de l'argent, et puis par contre sur les suites sanitaires et environnementales de ce qui s'y produit, vous la bouclez à tout jamais. Et c'est vrai que du coup on a mis beaucoup de temps à obtenir les informations, donc ce documentaire il a fait l'effet d'une bombe quand il est sorti, et donc inévitablement il s'est attiré alors une première réponse qui était un contre-documentaire complètement téléguidé par les foreurs, qui démontrait l'inverse, qu'en gros on était dans la petite maison dans la prairie à côté des forages, donc ça c'était même à la limite drôle tellement c'est ridicule. Et ensuite Josh Fox a été quand même emprisonné sous des prétextes divers et variés au titre d'un statut d'éco-terroriste. Bon, sous la pression il a été relâché, mais c'est réellement ça a démontré à quel point l'enjeu était de taille. Et je tiens à souligner qu'il a quand même aussi produit récemment un deuxième une sorte de suite de Gazland qui s'appelle The Sky is Pink, et qu'il faut vraiment voir parce que ce film-là, il est beaucoup plus court, mais simplement, il montre justement le jeu malsain qui s'est instauré entre les foreurs et les médias. Et vraiment, ça permet de aussi mieux comprendre un petit peu le pourquoi il faut être très, très, très prudent par rapport à la communication officielle sur, encore une fois, l'Eldorado des gaz de schiste, le progrès, la richesse et l'indépendance énergétique.
Voilà, donc on peut encourager ceux qui nous écoutent à se renseigner, puis aller soutenir les élus qui ont le courage de manifester leur opposition, parce que effectivement ils sont en première ligne. Et puis on le rappelle, les élus des communes de petite taille sont souvent des bénévoles. On va le dire comme
exactement,
ça.
Et pour une fois, on se plaint assez des élus qui font rien ou qui n'écoutent pas les populations. Alors quand il y en a qui assument totalement cette responsabilité, qui ont compris l'enjeu vital qu'il y a pour nous, et ben alors, je pense qu'il faut pour une fois être vraiment vraiment avec eux. Et puis voire même pour ceux qui hésitent encore, les élus qui hésitent encore, ben les aider à se décider à partir du bon côté. Je pense que il y a cette partie là qui est extrêmement importante. Et puis surtout, je crois que ce qui est très intéressant avec les gaz de schiste, le seul mérite que ça a, c'est que ça recrée un débat citoyen autour des enjeux énergétiques. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas reparlé comme ça, spontanément, entre gens qui ne sont pas des militants à la base, qui sont des gens lambda, de tous horizons, qui se retrouvent dans ces collectifs, sans notion de parti, qui ont des vues très différentes sur ces choses-là, mais c'est extrêmement enrichissant. Au-delà de la défense de notre territoire et de notre qualité de vie, c'est extrêmement enrichissant de venir amener chacun son analyse et repartir beaucoup plus riche sur ces plans-là. Donc vraiment, si ça peut être un argument pour aussi faire que les gens s'intéressent de plus près à l'action des collectifs, bah écoutez, c'est le double effet qui se coule du gaz de schiste.
Un autre effet, c'est finalement aussi, encore une fois, dans la production filmique, c'est Gus Van Sant qui sortira le 28 décembre prochain aux États-Unis un film intitulé Promised Land, qui raconte l'arrivée de Matt Damon, qui joue le rôle d'un représentant des compagnies qui vient acheter des terres. Donc le fait qu'il y a un long métrage qui sorte sur ce sujet montre bien la prise de conscience qu'il peut y avoir là-bas aux États-Unis, qui ont pris plein la gueule en la matière.
C'est ça, c'est la gueule de bois. C'est vraiment la gueule de bois. Et donc, il y a ce film-là. Et puis, pour être un peu plus chauvin, je cite aussi le documentaire qui va sortir, qui s'appelle Noir Seven, et qui a été tourné cet été précisément autour de cette question des gaz de schiste, et qui risque d'être aussi très intéressant à voir. Mais je pense qu'on est effectivement un tournant dans la communication autour de ça. Mais on est quand même dans une question de temps, parce que on sent que l'opposition gagne du terrain, on sent que la résistance est de plus en plus forte, mais en même temps, les gaziers, les foreurs sont pas très loin. Comme je le disais, les foreurs sont déjà en Île-de-France. Ils sont aussi dans les Ardennes. Ils ont démarré aussi là-bas. Dans le Gard, ils se préparent à intervenir. On est quand même dans une course contre la montre. Alors, on va gagner, c'est sûr, c'est obligé. Mais il faut pas oublier de se presser un petit peu quand même.
take away my water cause I want it clean. Hit the road crack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road crack, don't you come back no more.
C'était une interview de Claude-Lise Cabrol, membre du collectif Littoral 34 contre le gaz de schiste, que vous pouvez retrouver sur Facebook en cherchant Stop Gaz de Schiste Littoral 34, mais il vous faudra créer un compte si vous n'en avez pas. Tant pis, vous pourrez toujours téléphoner au 06 38 35 87 98, 06 38 35 87 98, si d'aventure vous voyez passer un convoi de camions sismiques.
Don't you come back. We ain't got no need for that stuff, man. I want a job and all, but I'd rather have clean water, you know. I figure I can always do something, like play guitar. You know, I'm not really good at building water filters. I figure, you know, the ground does it pretty good. Let's just keep it the way it is. I don't know, it's just me. I'm not an educated man, but I like a nice clean glass of water. I could go for one right now.
Une interview proposée et réalisée par Gilles Gouget. Plus d'infos et de liens sur divergence-fm.org.
That has to go.
So yeah, I lived in Vermont for 5 years, lived outside.